Et bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun, qui partagent le témoignage de personnes extraordinaires. Et nous continuons notre aventure à travers les méandres de l'alcoolisme avec Patrick, qui nous accompagne pour cette 7e émission déjà. Bonjour Patrick.
Salut Mel. Salut Issa.
Ça va? Salut Issa. Alors si je te présente à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, tu es une personne extraordinaire car tu es un résilient, un vrai, puisque c'est ta 11e année sans alcool.
Ouais, zéro alcool absolu.
Ouais, dans la dernière émission, tu mets un pied dans le soin mais tu es toujours dans l'engrenage de la souffrance. Tu te rends régulièrement aux urgences. En tant qu'alcoolodépendant, tu es systématiquement orienté aux urgences psychiatriques. Tu es pris en charge dans ce service, mais sans avoir de réel accompagnement. Et puis un soir, enfin une nuit, un jour, lors d'une énième hospitalisation, tu tombes sur un interne qui te dit que tu n'as pas un problème avec l'alcool, mais que tu es malade. Et toi, Patrick, quand tu entends ça, tu te dis que si tu es malade, tu peux te soigner. C'est quel déclic ça te fait? Comment ça se passe?
Eh bien, effectivement, c'est ce que j'avais raconté la dernière fois. Donc, si on remet les choses dans leur contexte, t'es alcoolique, c'est récurrent et cette hospitalisation récurrente aux urgences, en l'occurrence en ce qui me concerne, à 7, c'est une question de proximité. Donc là, les auditeurs qui nous écoutent, on est tous dans des endroits différents et il va y avoir des prises en charge qui vont être différentes partout. Donc la prise en charge dont moi, je vais bénéficier et la manière dont elles vont se passer, c'est propre à mon histoire. Mais j'ai quand même vadrouillé un petit peu. J'ai rencontré quelques maladoages dans ma vie et j'ai été à droite, à gauche, on va le voir aujourd'hui, dans les soins aussi, dans des endroits variés. Et la prise en charge, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, je la transpose avec, et je la partage avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, dans la mesure où on est effectivement pris en charge en urgence, alors que tu es en train de, dans ta question, nous souligner la vraie nuance qu'il y a avec l'accompagnement.
Tout à fait.
Voilà. Donc, effectivement, je suis prise en charge aux urgences de 7. Et le service des urgences de 7, comme je le dis avec un peu d'humour noir, quand on voit un mec avec une hache dans la tête, une balle dans le bras ou qui a laissé son pied dans la tondeuse, là, c'est un peu de
oui,
d'époque.
C'est
là. Effectivement, quand tu as un mec bourré, c'est de l'argent. Là, de gens alcooliques,
quand on voit un piccolo,
débarqué aux urgences. Mm-hmm. Bon, déjà, il fait chier le monde. Voilà.
C'est ça.
Et puis, on avait fait un petit point d'histoire, mais la maladie n'étant pas encore très bien.
Oui, reconnue vraiment en tant que telle, ou elle a été très tard reconnue en tant que telle par l'OMS.
Exactement. Et dans cette configuration-là et ce regard qui est posé sur la pathologie maladoH, mm-hmm. alcoolisme, addiction, et effectivement, les gens qui arrivent et qui sont alcoolisés, ils font chier le monde, ils font chier les équipes médicales aux urgences. Et je suis partant et partisan de prendre cette option où les urgences n'ont pas à être encombrées par ce profil, ce public de malades. Et ils sont là. Et pour l'instant, le système est comme ça.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Eh bien, dans ma situation, on le dirige vers les urgences psychiatriques parce que quand même, on dit les mecs qui sont alcooliques et c'est dans leur tête que ça ne va pas. Ouais, donc du coup, on est avec des mecs et effectivement, c'est dans leur tête que ça va pas. Et du coup, en fait, on les oriente effectivement en ce qui me concerne, donc dans le service en psychiatrie. Parce que si on accepte un petit peu notre histoire et qu'on dit que effectivement avant on considérait qu'il y avait un problème psychiatrique oui. alors que c'était de l'alcoolisme, la maladie elle évolue en fonction de comment on en parle, comment on expertise cette maladie. Et aujourd'hui, et vous le savez, moi je collabore un petit peu avec le docteur Possos, ça prend même un petit peu une tournure différente. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite.
Oui.
Mais cette prise en charge, en ce qui me concerne, elle ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la prise en charge aux urgences avec des mecs qui sont alcooliques et que la dernière fois, on a parlé un peu de notion de déni. Est-ce que le mec est conscient qui soit malade et donc qui peut se soigner, ou est-ce que le mec, il est seul dans son truc et il accepte pas trop consciemment d'accepter sa pathologie.
C'est ça, d'où la différence entre prise en charge et accompagnement.
Exactement, exactement. Et en fait, prendre en charge, c'est une expression aujourd'hui qui, dans notre, je suis en train de chercher mes mots aussi.
Dans le soin, c'est vraiment
ouais,
ça.
Dans nos institutions, c'est ça que je cherche. Dans nos institutions, en fait, le terme s'appelle prise en charge.
C'est le terme technique, en fait. On est sur un terme plus technique, accompagnement. On est sur un terme plus philosophique. Il me semble, peut-être que c'est ça la différence. T'en penses quoi ?
Donc justement, moi, j'en pense très fermement que le terme n'est pas beau et que justement. Donc, on parle aujourd'hui de prise en charge. Et la prise en charge, quand tu es alcoolique, on te prend en charge. On te prend en charge. Mmh. Et en fait, déjà, quand tu es alcoolique, on te met au rébut. Quand tu es alcoolique, on te met chez les mecs qui sont fous, hein, si on le dit de manière un petit peu vulgaire et argotique. Et on te prend en charge. Ça veut dire que tu es le boulet, en fait. Mmh. Parce qu'une charge, c'est un boulet, et on te prend en charge, on prend le boulet et on s'en occupe. Et donc, moi, je suis pris en charge, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis dans un système qui ne m'accompagne pas et qui ne me permet pas de me soigner. Et c'est ça la nuance avec ce qui m'arrive à cette énième hospitalisation d'urgence aux urgences de 7, là. C'est qu'effectivement, j'ai cet interne qui me glisse dans le creux de l'oreille et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et c'est ça que je veux faire passer comme message aux auditeurs et aux familles qui écoutent la radio, là, sur Radio Escapade. C'est qu'un mec qui est alcoolique, c'est un mec qui est malade. Ouais. Est-ce qu'une fois pour toutes, on peut accepter ça ?
Et le comprendre.
Ouais, et du coup, c'est pour ça que je te laisserai venir avec le docteur Pascal Poussos. Je mets la notion pour que tu l'oublies pas non plus tout à l'heure quand on en parlera. Mm-hmm. Moi, je parle de notion d'écoute. Voilà, d'écoute. Voilà, l'écoute. Donc du coup, voilà, moi je suis orienté vers la psychiatrie de 7. J'ai pas d'anecdote là qui me monte en tête à part l'aquarium dont je vous ai raconté.
Oui, tu l'as déjà raconté.
Mais c'est très dur, dur. C'est dur. Et en fait, à mon sens, au lieu de te faire évoluer dans ta pathologie, ça t'abîme, en fait. Mmh. Voilà, c'est des étapes qui abîment, mais moi, à aucun moment, elles m'ont aidé. Voilà.
Ok. Tu te retrouves en post-cure à l'ODEV, après ça.
Ouais, alors là, on fait un pas de géant, mais on peut effectivement aller sur l'ODEV. Alors, l'ODEV post-cure, c'est quoi une post-cure et qu'est-ce que c'est qu'une cure ? Je vais faire très simple là, pour que les gens qui nous écoutent puissent se saisir de ça comme un outil thérapeutique, hein, vrai. Parce qu'en fait, là, on commence en fait à la 7e émission, hein, il me semble-t-il.
C'est ça.
Et je crois que maintenant, il faut distribuer les clés. C'est-à-dire qu'il faut donner aux gens des clés qui permettent d'aller vers le soin. Et donc, moi, je parle d'accompagnement, je parle d'aider, je parle de remettre en forme, de reconstruire, de déconstruire peut-être tout ce qui n'allait pas pour mieux aller et se sentir bien. Être digne, avoir reprendre confiance en soi. Là, je pourrais étayer pendant un moment. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement, il y a plein de choses qui se font. Il y a autant de prises en charge. Donc, j'utilise ce terme parce que c'est quand même celui-là que notre ministère de la Santé utilise. Mais la prise en charge des alcooliques, aujourd'hui, elle dépend de l'addictologue, le chef de clinique qui va s'en occuper, etc. Et donc, il y a deux étapes dans le soin qui sont primordiales. C'est d'abord d'aller chercher l'abstinence. Et là, on parle de cure. À être abstinent, ça veut dire arrêter la consommation du produit toxique de manière aliénée, et ça s'appelle l'addiction, et habité par ce besoin que notre corps a créé. Et après, on parle de post-cure, et la post-cure, en fait, c'est réapprendre à vivre normalement, quelque part. Donc, le sevrage alcoolique, c'est scientifiquement parlant, l'alcool, c'est 5 jours de sevrage. Je rentrerai pas dans quelconque... comme on appelle ça quand...
Détail.
Quand les gens épiloguent.
Dans quelconque débat.
Dans un débat, voilà, sur le fait que l'arrêt de l'alcool soit de 3 à 4 jours ou de 3 à 5. Voilà, c'est une semaine. Comme ça, met tout le monde d'accord. Une semaine, t'arrêtes de boire, ton corps n'a plus besoin d'alcool. Voilà, c'est facile à entendre quand même pour l'auditeur. Une semaine, tu bois pas, zéro alcool. On considère que t'es abstinent. Voilà. Et là, si... Tout le monde est d'accord pour accepter ça. Au-delà d'une semaine, c'est sûr, t'es abstinent. Ouais. Ça veut dire que ton corps, le besoin physiologique, il est cassé.
Ça a été évacué.
Il est fini. Mmh. La relation, elle est rompue. Et du coup, il y a tout l'aspect psychologique qui va intervenir, parce que tu ne vas pas soigner ce que tu as dans la tronche en une semaine d'abstinence.
C'est clair.
Et après, en plus de ça, la réalité, c'est que quand tu viens boire et penser tes souffrances et ce qui ne va pas, ben, tous tes mal-être et tout ce qui ne va pas dans ta vie, la CAF, le machin, le truc, tes revenus, pas de travail, le chômage, la séparation, tout ce qui fait que tu es dans le mal, la mauvaise enfance, les mauvais parents, d'avoir été battu, d'avoir tous les profils possibles et imaginables. Il y a autant de profils qu'il y a de bonhommes sur cette planète, bonhommes ou de bonnes femmes, hein, soyons clairs, je parle mix. Et ça se soigne pas comme ça, quoi. Ouais. Ça se soigne pas en claquant des doigts et ça s'oublie pas, etc. Et du coup, on va installer une post-cure. Une post-cure, c'est un contrat. C'est un contrat entre un malade d'alcool ou un autre toxicomane. C'est le même. Moi-même, en plus, j'ai fait une post-cure pluri-toxicomanie. Mais c'est un contrat qui est passé et c'est 7 semaines. Alors il y a une logique que j'ai déjà entendue, mais pareil, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est 7 semaines et c'est vachement intéressant la façon dont c'est construit, qui permettent pendant ces 7 cycles de 7 jours, je pense que c'est pas anodin, il y a des explications qui viennent remettre la personne dans un rythme socio-économique à peu près normal. Voilà. Et effectivement, pour ma part, j'ai fait une post-cure à l'ODEV assez rapidement, une fois que j'étais soigné et donc curé.
Oui, parce qu'il faut être sevré.
Il faut être sevré.
C'est le détail. Hein, pour aller en post-cure, il faut être sevré.
Ouais, là, tu fais bien de le dire pour que nos auditeurs soient au clair avec ça. Et moi, je vous le dis en tant que piccolo, les gars, c'est 7 jours. Pas d'alcool, ouais. Et après, c'est ouverture en post-cure. Et la post-cure, il y a 2 types de patientèle. Je vais prendre la patientèle qui a envie de s'en sortir parce qu'ils ont décidé de s'en sortir et qui s'engage dans un soin. Il y aura de l'échec, il y a beaucoup d'échecs. Et il y a la patientèle qui va aller en post-cure parce qu'ils ont une place et que la porte est ouverte, mais ils ne sont pas encore prêts à faire cette post-cure. Moi, je vais aller à l'ODEV. C'est ma première post-cure et je suis pas un habitué des post-cures, contrairement à pas mal de patients, malheureusement, qui rechutent. Et je vais à l'ODEV avec un vrai espoir de me soigner, avec cette petite graine que cet interne m'a laissée dans l'oreille. Et je pars à l'ODEV. Voilà,
l'espoir, du coup.
J'arrive à l'ODEV avec l'envie de m'en sortir, avec quelque chose qui est important, c'est je ne suis pas dans le déni. Ouais. Donc je suis conscient que je suis marié avec éthanol et que je suis un alcoolique, quoi. Je suis un piccolo. Ouais.
Tu dis souvent que le drame de l'alcoolique, c'est de ne pas être compris.
Ouais.
Et là, à l'ODEV, si je ne me trompe pas, c'est là que tu rencontres le docteur Possos, justement,
ouais.
Que tu trouves enfin quelqu'un qui comprend la pathologie.
Ouais.
Ça doit changer ta vie d'alcoolique, ça, en fait.
Ouais. Ça m'émeut beaucoup quand on parle du docteur Possos, parce que j'ai un respect immense et pour ce monsieur. Qui n'est pas n'importe qui, il va venir vous dire qui il est. Et en fait, je décris un petit peu l'ODEV, c'est un hôpital public. Il y a 8 lits pour les malades d'alcool. Les malades d'alcool, ils sont surveillés comme des pestiférés, c'est-à-dire qu'on est sur 2 étages. On est en fond de couloir et au fond de ces 2 couloirs, les uns au-dessus des autres, là, il y a 4 chambres et c'est des chambres super austères d'hôpital.
D'accord,
là, le ton blanc et vert propre, clinique, là. Et tu as 1 lit mécanisé, tu as une douche chiotte blanc.
Ouais, rudimentaire, quoi.
Ouais, et tu es en bout d'immeuble, là, et en fait, tu n'as rien. Et tu vas passer 7 semaines là-dedans. Voilà.
D'accord.
Et en fait, c'est tout sauf chaleureux. Est-ce que c'est important? Je le dis aux auditeurs, non. Et à moi, il ne faudra pas venir me raconter que c'est important, parce qu'en fait, tu n'es pas en vacances, quoi. Hein, parce que
les post-structures, vous verrez, quand même.
Je vous raconterai de la deuxième, c'est autre chose. Et tu es là-bas pour te soigner, voilà. Et il faut y aller, parce que là-bas, tu es là-bas pour revivre. Tu es là-bas pour comprendre ta pathologie. Une des clés que je vous donne là à l'auditoire, c'est que pour se soigner de cette pathologie, il faut la comprendre. Voilà. Et la comprendre, et c'est là où je regarde Possos, effectivement, pour la première fois. Et en fait, ce bonhomme, c'est un vrai génie. Et je le dis tout le temps comme ça, en fait, ce qui est énorme, bon, déjà, je ne peux pas me passer dans ma présentation d'informer les gens qui nous écoutent. Toi, tu le sais, Mel, mais ce gars-là, il fait partie de l'équipe qui a réussi en France la première transplantation de foie,
exact,
d'un foie sur un patient malade d'une cirrhose. Et il réussira avec ses deux confrères. Ils réussiront, lui, en tant que gastro-entologue, ils réussiront la première greffe de foie en France sur un malade d'alcool. Voilà, je laisse le reste... Je laisse le soin au docteur Possos de se présenter à vous, un de ces quatre. Là.
Oui, voilà. Donc, ce sera avec plaisir.
Et par contre, mon regard de malade, c'est que ce gars-là, j'en ai entendu des gens quand même dans mon parcours. Là, quand j'arrive là, on a balayé tout ça parce que les auditeurs, ils s'en foutent. Ils sont dans leur souffrance. Ils y sont dans le ping-pong entre docteur A et docteur B, de l'institution A à l'institution B, des urgences, du truc. Donc, moi, en tout cas, je comprends ça. Et l'auditeur et la famille, faut bien mettre ça aussi dans le panel de la souffrance de votre proche. Je vous passe ces détails-là parce que c'est singulier, en fait, chacun son parcours. Mais c'est la misère, quoi. Et un jour, tu t'assois à une table et t'as ce bonhomme qui laisse une image de quelqu'un de tellement abordable, tellement, j'ai envie de dire, simple, mais voilà, c'est pas quelqu'un de simple, hein. Le docteur Possos, c'est même quelqu'un d'extrêmement puissant dans ce qu'il fait. Et en fait, ce bonhomme, c'est un génie parce qu'il te regarde, t'es bac moins 12, tu sais pas lire, tu parles une langue étrangère, il va t'expliquer ta maladie. Et tu vas la comprendre.
Oui, il peut te faire comprendre tous les mécanismes et se mettre à ton niveau pour te le faire comprendre.
Oui, c'est ça. Et quel que soit...
C'est magique, du coup.
Ouais, c'est un génie. C'est un génie parce qu'il faut être un génie pour être capable d'avoir ce côté pédagogue, ce côté scientifique, d'expliquer de la pathologie. On est en train de parler de médecine, quand même. Et tu parles à un mec qui, lui, il ne sait pas parler le français, il ne comprend rien, il ne sait pas aligner deux mots, mais il va comprendre. Avec lui, il va comprendre. C'est dingue. Et à l'inverse, tu mets un mec, et là, je fais référence à un patient avec qui j'ai sympathisé dans la vie. Le mec, il est intelligent, il a fait des études, il a bac plus plus plus. Il t'explique qu'il a fait beaucoup de philosophie. Je parle de philosophie parce que vous verrez, ça a du sens à un moment. Après, il parle aussi de Freud, de Nietzsche, de Lacan.
Oui, donc il arrive vraiment à te faire comprendre.
Là, je parle pas du docteur Possos, hein, je parle du pote en question, qui lui est bac plus, et lui, il faisait partie des patients qui regardaient le docteur Possos à lui expliquer. C'est un mec qui expliquait au docteur Possos ce que c'était que la pathologie, tu vois. Et donc on était 8 patients, et donc j'avais ce mec là qui était lui aussi avait une forme de capacité intellectuelle, de culturelle et de réflexion absolument fantastique. Et il avait pas compris sa pathologie comme les 8 qu'on était là, sinon on aurait été abstinent, on aurait été soigné et résilient. Et c'est pas le cas, on est 8 alcooliques et on est 8 en post-cure dans la même aventure. Et donc il y a ce mec, Possos, là, et tu le regardes et tu fais « mais c'est incroyable, comment tu peux être en train de parler de cette pathologie alors que clairement t'es pas atteint de cette maladie, quoi ?»
Oui, donc c'est fabuleux pour toi.
C'est fabuleux, et c'est fabuleux pour n'importe quel mec qui rencontre ce gars-là, voilà, parce qu'il a un don, il a un vrai don.
Donc lui, il pose cette petite graine dans ton esprit, dans cerveau, mais quand tu rentres de l'ODEV... Parce que tu rentres, même que ça soit austère ou pas, que ça soit peu importe l'ambiance, tu rentres d'aplomb et déterminé à ne plus boire, à commencer une nouvelle vie, je suppose. Quand on sort de post-cure, c'est comme ça qu'on sort. Je sais pas. Je te pose la question.
Ouais. Alors là, on vient d'y rentrer. Et je viens de voir le docteur Possos. Donc du coup, on fait une post-cure quand même semaine. Donc avant de sortir, il faut tenir cette semaine. Faut penser aux gars qui nous écoutent, et tu vas arriver déjà une semaine d'abstinence en cure.
Ouais.
Moi, j'ai passé 50 nuits, je vous ai dit, aux urgences de 7, en vous rappelant que c'était anecdotique. C'est-à-dire que peut-être que c'est 100 nuits à 7 que j'ai passé, j'en ai pas fini une seule. D'accord. La seule que j'ai finie, c'est celle que j'ai finie parce que ce médecin est venu me voir, cet interne.
Oui, que tu as tenu là, jusqu'au bout.
Là, déjà, tu as tenu une semaine et tu es sevré. C'est ça la cure, hein. C'est un sevrage. Hein. C'est... Déjà, tu as tenu une semaine sans picoler. Déjà, tu as fait un pas de géant, quoi. Là, dans les gens qui nous écoutent, Mel, des gens qui arrivent à tenir une semaine sans boire quand tu es alcoolique, c'est déjà, ils se comptent. Voilà. Ouais. Et on pourra faire un petit jeu des statistiques, mais c'est pas rigolo à la radio parce qu'on ne voit pas.
Il y en a qui partent au bout d'une semaine.
Mais oui, sur les 8 lits, t'as des mecs qui tiennent au bout de 2 jours. Et c'est pour ça que j'ai précisé, t'arrives dans une chambre, c'est austère, tu vas passer 7 semaines. C'est rien 7 semaines quand tu vas aux Maldives avec ton maillot de bain, ta femme et une glacière de...
C'est pas la même
ouais,
ambiance.
Ouais, là je suis à l'Odev. Là tu vois, je suis à l'Odev, je suis dans une chambre blanche. Je t'ai jamais montré ça, il faudra que je te montre ça, les photos. Ouais. Enfin tu vois, c'est des trucs qui te marquent. Voilà. Oui. Et tu vas arriver et dans la post-cure, c'est un contrat, c'est ça que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu signes et tu t'engages à rester à l'hôpital. Il n'y a pas d'obligation. Hein.
Oui.
Mais tu t'engages. Par contre, si tu consommes, il n'y a pas d'avertissement. Tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Et quand tu prends tes clics, tes claques et tu dégages, t'es encore un exclu en fait.
Oui, et t'es seul.
Mais sauf que la consommation d'alcool, c'est pas t'appuies sur un bouton, t'arrêtes de boire. Ça se saurait. Ça serait pas le fléau que c'est aujourd'hui. Donc arriver dans un truc où tu connais personne, t'as pas de famille, t'as personne autour de toi, il y a personne qui va t'aider, qui va te lever le matin pour faire ce qu'on t'a dit de faire. T'as pas de vie, tu travailles plus, t'es plus rien, t'as plus de repères. Et là, on te dit demain matin, vous êtes debout à 9h et c'est ça, qu'est-ce que c'est qu'une post-cure ? Bah, tu dois être dans la salle avec tout le monde à 8h30 pour le café et de 9h à midi tu vas étudier ta pathologie. Et qui va t'expliquer ce que c'est cette pathologie ? Des soignants, et il y a 2 soignants là-bas qui auront marqué ma vie, Nancy Sebe et le docteur Pascal Possos, et ces 2 personnes-là pendant 3 heures vont te faire un cours d'addicto. Après l'après-midi, tu vas avoir un atelier peinture obligatoire, on va faire de l'art thérapie, il y a tout un programme et c'est ça qui est intéressant dans la post-cure. Mais là-dessus, je pourrais t'écrire un petit livre ou faire une émission complète de 2 heures sur une post-cure.
Et oui, parce qu'il y a des ateliers obligatoires, t'es obligé de t'y rendre, c'est vraiment un contrat où t'as des obligations réelles. Quoi,
dans la vraie, pour les auditeurs qui nous écoutent, le plus facile à imager et la meilleure façon de présenter ça, c'est quand tu arrives à la rentrée scolaire pour un gamin au collège et qu'il reçoit son emploi du temps.
D'accord.
Voilà. De 8h à 9h, t'as anglais. De 9h à 11h, t'es en bio. De 11h à midi, t'as sport. Pause déjeuner. 13h, retour en cours. Français pendant 2h. 1h, machin. Et t'es libéré à 16h30. À 16h30, t'as le droit d'aller te promener dans le parc pendant une demi-heure. T'es éthylotesse, machin, pour tout le monde. Après, t'as le droit d'aller regarder un film. Et après, à 8h, t'es au dîner. Et après, c'est dans ta chambre, tu bouges pas.
T'étais au courant de comment ça se passait avant d'y aller, toi ?
Non,
pas
non,
du
non.
tout. Tu découvres
non.
ça sur
non.
place, en
et
fait.
C'est, et en fait, c'est peut-être une de mes chances. Et c'est sans doute ça, une des souffrances supplémentaires des gens qui nous écoutent. C'est que quand moi, je vais en post-cure, c'est la première. Et j'y vais avec mon intellect à moi. J'y vais avec ma philosophie à moi. J'y vais avec la façon dont je ne suis pas dans le déni. J'ai des outils que des gens qui nous écoutent là n'ont pas. J'ai cette chance, si on peut parler de chance. J'ai des outils avec moi déjà qui sont des gros outils. C'est qu'effectivement, j'ai compris que j'y vais en me disant je suis malade, c'est-à-dire que je peux me soigner. J'y vais en ayant envie d'y aller. J'y vais en comprenant à peine là où je mets les pieds, mais je fais confiance aux gens qui m'accompagnent. Et je vais m'en sortir en allant là-bas. Enfin, je suis dans l'espoir et en fait, je souffre. Donc vraiment, j'ai envie d'arrêter de souffrir. Donc je vais en post-cure là-bas. Et je fais ces 7 semaines-là sur le groupe de 8 au départ. On est 4 à finir les 7 semaines.
Oh, c'est énorme. En fait, il y en a la moitié qui s'en vont dans la centrifugeuse, en fait. C'est comme une centrifugeuse.
Oui, c'est ça.
Et de cette centrifugeuse, il y en a 4
qui
sont éjectés.
C'est ça. Et c'est d'ailleurs ça qui commence à... C'est dans ce qu'on va aborder maintenant. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment ça se fait que c'est une centrifugeuse,
oui.
déjà. Et ensuite, comment ça se fait que cette centrifugeuse, elle n'arrive pas à rattraper ceux qui passent dans les mailles du filet.
C'est intéressant. Ça se passe au niveau du personnel soignant, de l'accompagnement, de la prise en charge,
ouais,
justement.
Ouais. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on étaye du mieux possible au niveau pour les auditeurs. Et je suis certain d'avoir des vraies clés. Et là, dans ce que tu viens d'exposer, il y a des réponses. C'est-à-dire que le patient lui-même va faire le taf. Et les gars qui nous écoutent, c'est sûr, c'est vous qui ferez le taf et c'est vous qui allez entreprendre votre soin.
Parce que la guérison, elle vient de
soi. Ouais, mais c'est une pathologie où il faut qu'on t'aide, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Bah, c'est comme, moi, j'aime bien faire le lien avec le cancer parce que mon père est mort du cancer. Ouais. Et mon père, on l'a aidé à combattre cette pathologie avec des chimios, avec des traitements. Mais là, t'en as pas. t'as pas de traitement.
Ouais.
Et ouais, t'as pas de traitement. Hein.
Tout est dans l'accompagnement des soignants.
L'accompagnement, c'est tout le traitement extérieur.
Ouais.
Voilà. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à venir
à
philosopher.
Ouais.
Et c'est exactement ça. Mais l'acteur principal, c'est la loi 2002 de notre prise en charge sociale. C'est
oui.
que le patient, la personne accompagnée en oui. institution, elle est acteur de son projet. Donc on peut en parler, c'est hyper intéressant. Je veux en parler avec les gens qui sont concernés par cette prise en charge médicale. Et pour répondre plus simplement à ta question, quand moi je vais à l'ODEV, je découvre un génie, le docteur Possos, et il y a Nancy Sebe qui va être le thérapeute principal de ma post-cure.
D'accord.
Et ces deux personnes-là vont me changer ma vie.
D'accord.
Voilà. Mais c'est une histoire de relation, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire humaine en fait finalement. Et c'est pour ça que je regarde le docteur Possos comme un génie, parce que il l'est scientifiquement et au niveau de sa performance médicale avec ses confrères. Mais après, c'est un mec qui a compris la pathologie. Il faut écouter ce gars-là, quoi.
Oui, et du coup, c'est lui que tu écoutes dans cette post-cure parce
qu'il ouais,
est là.
C'est mon père de soins.
Et hein, c'est ton père de soins.
Ouais, c'est mon père de soins. C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle, il a compris. Et toi, t'as pas encore compris puisque t'es malade. Et
ouais.
une fois qu'il t'a expliqué, lui, t'as quand même des sacrés putains d'outils pour t'en sortir.
Hein. Ouais. Donc moi, j'ai envie de dire que dans le noir, derrière le brouillard, toi, tu écoutes le docteur Possos. Et Issa, il va nous mettre le morceau que j'ai choisi. Et je te laisse écouter ce petit morceau que Issa va nous mettre.
Ouais, j'ai deviné qui c'est.
C'est
notre amie blonde, Loane.
Avec Grand Corps Malade.
Grand Corps Malade, ouais.
Et il y a quelques paroles qui m'ont percuté.
Ouais, j'adore ce titre.
Je te laisse écouter.
Vas-y, j'écoute.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois. Trouver le courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. C'est exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs
aussi j'ai connu une sorte de brouillard. Et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
C'était Dans le brouillard de Grand Corps Malade et de Louane. Vous êtes sur Radio Escapade 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 103.3 à Ganges-le-Vigan et 102 à La Salle. Et partout dans le monde, en fait, sur radioescapade.org. Patrick, cette musique, je ne l'avais pas prévenu que j'allais la mettre, mais il y a quelques paroles qui m'ont percuté et je trouvais que ça allait très bien avec ce qu'on était en train de débattre cet après-midi.
Et donc, quelle est ta question?
Eh ben, ma question, c'est qu'il n'y a pas de recette, mais j'ai l'impression que chacun doit trouver la sienne, finalement, dans cette résilience, dans ce combat contre la maladie, parce qu'on parle de combat.
Ouais. Bon, évidemment, cette chanson me percute. Je te remercie pour ce choix. Ça m'émeut. Voilà, pour faire simple, là je suis en face de toi, les gens ils me voient pas, mais c'est Grand Corps Malade, je pourrais faire une émission avec lui si un jour on a l'occasion. Ouais. Il fait partie des
résilients lui aussi, fait, hein, en fait.
Il y a lui, il y a Renaud qui est en train de disparaître à cause de l'alcool, il y a Grand Corps Malade qui est un résilient, enfin voilà, il fait partie de ces artistes que j'admire beaucoup. Ouais. Et en fait peut-être que les gens ne font pas le lien que je fais, ce qui est évident. Et il n'y a pas d'obligation d'ailleurs, mais j'invite les gens qui nous écoutent à écouter tout ce qu'a écrit Grand Corps Malade pour des notions de respect, des notions de résilience, pour des notions d'espoir, de courage, de rêver.
Oui, il a pas mal de textes.
Et puis on pourrait en parler pendant des heures. J'adore cet artiste, voilà. Ouais. Je pense que tout est dit.
Oui, tout est dit.
Du coup, je vais reprendre un petit peu le texte et je vais donner... Il y a une recette... Il y a une recette dans l'alcoolisme et je suis là pour ça en fait. Je suis là pour donner aux gens, pour te donner à toi, aux gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Je suis là pour vous donner une recette. Je n'ai pas dit que ma recette était celle qui fonctionnerait mieux que celle des autres. Mais je dis que ma recette, elle est efficace.
Elle a fonctionné en tout
elle
cas sur
efficace.
Toi.
Elle est très efficace. Elle est efficace et c'est celle que j'invite. Les gens font bien ce qu'ils veulent, mais j'invite les proches à inviter ceux qui sont dans le mal, dans leur famille et qui sont touchés par les addictions. La première chose, c'est de comprendre sa maladie.
Ça a l'air d'être essentiel, en fait, cette compréhension.
C'est impossible de sortir des addictions ou d'être aidé dans les addictions sans comprendre le mécanisme des addictions.
Parce que ça aide à se comprendre soi-même, du coup, en fait. Et ses propres mécanismes, c'est ça?
Alors, la compréhension de soi-même, c'est un autre volet, c'est l'histoire de chacun, avec la famille de chacun, avec la construction du petit enfant qu'on a tous été, avec l'adulte. Ça, c'est singulier et ça, c'est chacun son histoire. Mais comprendre la pathologie, c'est comprendre le mécanisme de l'addiction, c'est accepter tout simplement qu'il y a un produit extérieur à l'air, l'eau, les nutriments, tout ça dont on a besoin. Mm-hmm. Et ben, il y en a un, on peut l'insulter de tous les noms là, mais ce toxique de merde, lui, il devient essentiel à ta vie en fait.
Oui.
Voilà. Donc c'est un petit mec là. Chez moi, c'est éthanol parce que je suis un alcoolique. Mais moi, je me suis attaqué avec le diable en fait aux addictions. Et en fait, c'est il faut savoir ce que c'est que de l'éthanol. Il faut comprendre ce que c'est, ce qui se passe dans ton corps. Il faut comprendre la capacité qu'il a à te mettre bien, à te mettre pas bien, à te soigner. Ça soigne tout l'alcool. L'éthanol soigne tout. Hein.
Oui. On peut tout soigner avec l'éthanol. Dans les émissions précédentes, voilà.
Il faut comprendre. Il faut comprendre la pathologie et ça ne s'apprend pas là avec Patrick en deux minutes. Hein. Ça s'apprend avec des mecs comme Possos, des génies de cette pathologie. Ça s'apprend avec du temps et des gens qui sont aussi ouverts à écouter ce que c'est que cette pathologie. Donc, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ta pathologie, comment tu veux la soigner ?
Tout à fait.
Un mec qui a le cancer, on lui explique. On ne lui explique pas dans le détail, mais on lui explique.
Oui.
Et on lui explique le traitement. Et bien là, le traitement, il va être fait de beaucoup de choses. Et c'est la deuxième notion, c'est celle qui est évoquée dans la musique, c'est le courage.
Oui.
C'est le courage. Tu ne peux pas, quand tu es un proche, ou tu ne peux pas être atteint d'une addiction, donc être toxicomane, sans avoir du courage pour t'en sortir. Et cette notion-là, on a tous un instinct de survie. C'est-à-dire qu'on est tous capables d'appuyer sur le bouton courage. Voilà. Et c'est un des trucs qu'on ne m'enlèvera pas. J'ai été ultra courageux dans ma résilience.
Oui.
Mais il faut avoir du courage. Mais le courage, il faut que les gens ils t'en donnent. Et quand les gens te donnent du courage ou de la force, ben, tout seul, on n'est rien.
Il faut être soutenu dans ce courage.
Ouais, il faut être accompagné, tu l'as dit tout à l'heure. Soutenu, accompagné, compris, écouté. Voilà, c'est la notion dont je te parlais tout à l'heure. C'est que si tu es tout seul et qu'il n'y a personne qui t'écoute, tu t'en sortiras sans doute très difficilement, parce que je laisse toujours la porte du possible ouverte. Mais voilà, il faut comprendre sa maladie. Il faut être courageux. Courageux, ça veut dire être rempli de force et rempli d'aide. Et tout seul, on ne peut pas. Donc, il faut accompagner les gens. Et après, ça, c'est une clé qui est un avis aujourd'hui personnel. C'est l'éducation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un éduc sportif. Et éduc, j'ai été éduc de rue. J'ai été éduc en centre éducatif fermé. J'ai été éduc avec des jeunes qui sont dans les toxiques, dans le trafic, etc. Dans le dur.
Mmh.
Ouais, il faut être... ouais, là, c'est pas tuteur. Tuteur, c'est quand t'es... C'est quand il faut te tenir droit, là, t'es en train de tomber, tu vois, il te faut un tuteur. Non, il faut de l'éducation.
Voilà. D'accord.
Il faut absolument qu'on apprenne à nos jeunes à vivre sans le toxique. Il faut bien faire comprendre à nos jeunes qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'alcool. Il faut arrêter de dire de la merde aux jeunes. Il n'y a aucun bénéfice. Aujourd'hui, plus tu te ressens, mieux tu te fonds dans la masse. Et aujourd'hui, le seul pouvoir des toxiques, c'est de tous avoir la même gueule de con. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, quoi. On est tous dans le même état, donc on est content, quoi. Non, soyez vous, soyez ce que vous êtes, ayez du caractère, ayez des idées, mettez ce que vous avez à dire sur la table, pensez différemment que votre voisin, ne soyez pas con, quoi.
Il y a d'autres choses qui rapprochent, en fait, c'est peut-être leur dire qu'il y a d'autres choses qui rapprochent que le toxique.
Et le toxique, ça réunit. Ah ouais,
ça réunit, mais il y a peut-être d'autres choses qui rapprochent.
Mais ça détruit, voilà. Ouais. Et l'alcool détruit tout. Voilà, il n'y a aucun bénéfice à l'alcool. Et l'éducation, aujourd'hui, très clairement, moi, ça m'a sauvé la vie parce que quand tu es dans le dur, tu peux pas envoyer chier les gens, quoi. Et quand t'es dans le dur, il faut être capable d'avoir un peu d'humilité et de dire s'il vous plaît, de dire bonjour, de dire merci. Et moi, j'ai pas 50 personnes qui m'ont soutenu dans mon parcours. J'ai même vraiment personne qui m'a trop soutenu et ça se compte, les gens. Et c'est grâce à mon éducation, c'est grâce à ma relation à l'autre et c'est grâce à mes valeurs que aussi je me suis sorti de cette putain de maladie, quoi. Voilà.
C'est ça.
Et donc, ces trois points-là, comprendre, être courageux et être bien éduqué, je pense que c'est des outils qui sont une bonne recette. Voilà. Et ça se fait pas en claquant des doigts.
C'est la règle des trois, alors, du coup.
Bon, peut-être, ouais, on peut le dire comme ça. Après, je reviens sur le texte, toujours.
Oui.
Le brouillard, je sais pas s'il a pris ce mot-là, parce que tout le monde a déjà été dans le brouillard, tu vois pas grand-chose, quoi. Je fais un petit clin d'œil à Grand Corps Malade, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Moi, quand je suis dans ma voiture dans le brouillard, je m'amuse, en fait. tu vois.
Ouais.
Et on se connaît, donc tu sais, j'aime bien la vitesse, j'aime l'automobile. Quand il y a du brouillard, je m'amuse. Là, Grand Corps Malade, il aurait fallu que tu nous trouves un truc un petit peu plus sombre. Elle vit dans le noir. Et ouais, elle chante dans le noir. Dans le noir, oui. On sait que l'homme, il voit rien. C'est pas du brouillard, l'alcoolisme, c'est profondément du noir et il faut des putains d'anti-brouillards. Voilà. Ça, c'est ma petite façon de dire aux auditeurs qui nous écoutent, je sais très bien, moi, ce que ça veut dire être dans le brouillard, être dans le noir. La métaphore que moi j'utilise, c'est un tunnel. J'ai été dans un tunnel pendant des années, pendant 8 ans, j'ai été dans un tunnel. Je savais même pas si j'allais du bon côté. Jamais vu la lumière.
Aucune
pendant
lumière
7 ans, 8 ans. Jamais.
Mmh.
Et t'avances. Voilà. Et c'est là où il faut du courage parce que il est long le tunnel. Hein.
Oui.
Et les mecs qui sont dans le dur, ils savent. Mmh. Et les gens qui sont à côté des proches, ils savent que le temps passe et que c'est dur. Et il faut avoir une putain de batterie. Il faut allumer vos phares, les gars. Et puis après, le petit clin d'œil, bah, c'est ça. Moi, je me suis reconstruit avec ça. Je me suis reconstruit et aujourd'hui, c'est pour ça que je fais de la prévention et c'est pour ça que je fais de l'éducation. C'est parce que au mieux, aujourd'hui, on peut dire à nos jeunes de ne pas aller dans les toxiques.
Ouais. Il va y avoir des hauts et des bas après cette post-cure parce que tu es un des seuls. Enfin, vous êtes quatre à la terminer, à tenir les 7 semaines. C'est pas évident, c'est dur, c'est énorme en fait. Hein. Quand tu sors, tu es remonté et tu es prêt à commencer une nouvelle vie, tu es motivé. Tu rechutes après ça, après cette première post-cure, il y a une rechute. Est-ce que tu penses que c'est quelque part le chemin obligatoire dans la résilience de se soigner, de rechuter ? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal du coup ? Est-ce que tout le monde vit ça ?
J'aime ta question
et j'essaie de comprendre.
Les auditeurs à te réécouter, la poser, parce que ta question en dit long sur le regard des gens sur cette pathologie. Ouais, t'es motivé à réattaquer ta vie et tout, mais en fait, quand tu vas sortir de post-cure, à partir du moment, tu vois, j'avais parlé de cette chambre qui est froide, tu vas dans un hôpital, tu pars pour 7 semaines, c'est long. Tu dis, il y en a 4 sur 8 qui sont sortis. La post-cure de l'ODEV a sans doute un des meilleurs résultats en France. En gardant 50%.
D'accord.
Voilà. C'est plus que ça, le taux d'échec. Et c'est ça, la réalité. Et la réalité, c'est là où moi, je voudrais apporter des clés. Donc, j'aime cette innocence dans ta question parce que la réalité, c'est que quand tu sors de post-cure, et c'est là où je fais attention à mes propos pour les auditeurs, c'est que heureusement, dans l'état actuel des choses, que aller en post-cure, ça n'est pas la clé pour sortir de l'alcoolisme.
Ouais.
Ouais, sinon ça se saurait. Donc, allez en post-cure parce que ça va vous donner des outils pour vous en sortir. Et ça répond indirectement à ta question. Je réponds simplement non, la post-cure ne permet pas de sortir de l'alcoolisme comme ça. D'un coup, en une post-cure, je suis un des seuls mecs que tu vas croiser qui a fait 2 post-cures et qui est résilient d'alcool.
Oui, c'est ça.
Et tant mieux pour moi d'ailleurs. Mais non, le chemin est bien plus long et heureusement qu'il est long parce que la métaphore qui me vient pour que tout le monde l'entende bien et le comprenne bien, c'est que si tu connais un petit bébé qui a 1 an et qui est passé du 4 pattes aux 2 pattes sans tomber, tu me le présentes.
Et oui.
Voilà.
Mais je trouve que la métaphore est magnifique.
Ouais, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu es dans l'addiction alcool, je reste dans l'alcool, mais on peut en parler des autres. Hein. Quand tu es alcoolique, sortir de l'alcoolisme, moi j'ai regardé ma mère, je devance, je pense, tes questions dans le soin, mais à la fin de ma post-cure de Montauban au château de Longzeg, quand je suis sorti et que j'étais en béton armé, et je suis toujours en béton armé depuis ce jour-là, je l'ai regardé, elle, dans les yeux, en lui disant « Maman, j'ai 1 an et je sais marcher. Mais maintenant, il va falloir que je grandisse.
Ouais, » Tu réapprends à marcher.
Tu réapprends tout, tu recommences ta vie.
Tu réapprends à vivre.
Quand
fait.
Tu dois reconstruire ta vie. Moi, j'ai tout reconstruit. Hein. En 11 ans, j'ai tout reconstruit. Donc, le chemin est long. Hein.
Oui.
Le chemin est long, mais aujourd'hui, les auditeurs, ils ne voient pas ma tête. Mais les auditeurs, quand ils vont me voir un jour, je ne sais où, à la télé ou...
ou ailleurs, ils vont dire mais c'est un ancien alcoolique.
Ouais.
Ils vont, voilà. Mais c'est pas possible.
L'être humain et le corps a une puissance de fou, et il faut que les gens qui nous écoutent, ils reprennent confiance en eux. Votre corps, il fera le reste.
Oui, et puis c'est vraiment porteur d'espoir, parce qu'on peut être vraiment dans l'enfer, dans ce noir total, et se demander comment on va y arriver.
Il y a une issue.
Et c'est ça qui est important d'entendre.
Dans ce qu'on est en train de partager, c'est ça. Il faut qu'on écourte ce chemin.
Bien sûr.
Et c'est ça que je vais essayer d'apporter sur cette émission là, en ayant posé quelques bases de réflexion.
Ouais, ça y est.
Et ensuite, il nous reste 3 émissions officiellement.
Oui, c'est ça.
Je sais qu'on va en faire plus que ça.
on a beaucoup à dire.
Et on va aussi donner des outils. On va répondre aux questions qu'on nous a posées. Et on va. Il y a des outils simples à mettre en place. Et il y a des outils, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à écouter les patients et à écouter les parcours des uns des autres dans ceux qui sont là à résilience.
Et on va faire venir quelques témoignages aussi intéressants.
Ouais.
Comme ça, ça va aider aussi à nos auditeurs à comprendre pas mal de choses. Mais l'émission touche à sa fin. Je crois que c'est déjà le temps imparti. C'est impressionnant comme ça passe vite, en fait.
Ouais, c'est incroyable.
J'aurais voulu parler encore plein de choses.
Ouais.
Merci Patrick
d'être venu encore une fois. Mel, j'ai adoré ce moment et vraiment je pense que là maintenant qu'on va rentrer dans le soin...
Là j'ai encore plein de questions à poser.
Ouais, mais on y répondra et je pense que dans l'approche médicale, les témoignages des gens qui arrivent là, ils vont être essentiels pour les auditeurs.
Oui, et puis il y aura cette différence entre l'accompagnement, la prise en charge. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je fais la différence depuis très longtemps, moi, sur ces deux mots. Et j'utilise vraiment le mot accompagnement plutôt que prise en charge parce que je la trouve lourde, en fait. Je trouve ça lourd comme terme. On en discutera. On aura cette occasion-là. Ça va me faire plaisir de discuter de tout ça. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci Patrick. Merci Issa à la régie qui nous accompagne depuis un bon petit moment et c'est génial. Et ciao, à bientôt. Ciao.
Merci Issa. Merci Mel. Ciao.